Nous allons, comme l'indiquait Christine Carrier, non pas commencer en musique, mais sur la musique. Et je fais appel à Olivier Zerbib, que je ne trouve plus. Ah, ça y est. voilà. Je pense que tu vas t'installer.
Voilà. La présentation.
Voilà, donc Olivier Zerbib, sociologue du laboratoire PACT de l'université Grenoble-Alpes, qui avec Pierre Lequeo, s'est engagé dans une recherche initialement intitulée, mais Olivier reviendra peut-être sur l'intitulé, sur le premier intitulé, les publics de la musique des bibliothèques. Et l'enquête s'intéresse également aussi aux bibliothèques des conservatoires. Et il s'agit donc d'une présentation d'étape, on va dire, puisque l'enquête est en cours. Et d'ailleurs, je pense que vous avez vu circuler des questionnaires. Olivier y reviendra. Je crois qu'on a besoin de vous aussi de ce côté-là. Je te laisse la parole, Olivier.
Merci. Alors, je suis désolé, c'est la fête de la musique. Je ne suis pas debout avec un micro et je ne vais pas la faire en chantant. Je chante très mal. Alors effectivement, Pierre Lequeo n'est pas là aujourd'hui et il est sur mon épaule, donc il vérifiera. Je ne dis pas trop de bêtises. Je vais vous présenter le cadre de la recherche et puis évidemment, puisque cette enquête est en cours, on est à la deuxième phase, les principaux constats déjà, qu'on aura peut-être l'occasion de discuter et vous aurez sans doute des questions. Et la deuxième phase dans laquelle on se trouve maintenant, qui est la phase de validation quantitative avec le questionnaire dont vous avez entendu parler et un questionnaire destiné à vos publics dont on espère que vous nous aiderez aussi à le diffuser. Alors, on s'intéresse à la place de la musique dans l'ensemble des activités des médiathèques. L'idée pour nous, c'est de qualifier la façon dont vous, professionnels, vous faites vivre la musique aujourd'hui et comment les publics répondent aux offres que vous leur faites. Alors, ça veut dire qu'on s'intéresse à cette place par rapport à d'autres activités et y compris comment concrètement ça s'organise. Quels sont les partages qui sont faits, qui s'en occupent. Et puis on tient compte de choses que vous connaissez qui sont des éléments de transformation qui sont très rapides du secteur de la musique, alors qui ont commencé il y a un moment mais dont on mesure des effets aujourd'hui de manière assez forte. Alors on est dans une démarche compréhensive, c'est-à-dire qu'on s'intéresse évidemment aux faits, donc on est quand même dans une sociologie, je vous en reparlerai, quantitative, on va essayer quand même de mesurer des constats et de faire ce que font souvent les sociologues de façon, on va dire, objective et puis compréhensive, c'est-à-dire que quand même on s'intéresse au sens qui est donné à ces transformations par les équipes déjà des bibliothèques et par leur public. Quelles sont les réflexions de votre communauté? Quels sont les projets qui sont conduits et comment on peut rendre compte d'un certain type d'évolution et d'adaptation? On a conçu donc du coup ce dispositif d'enquête en deux phases. Une première phase qui est une phase, on va dire, exploratoire, monographique, où nous avons choisi un centre de sites depuis l'été l'an dernier. Je vois qu'on a mis deuxième à automne, très bien. Et une validation quantitative qui a lieu en ce moment depuis le printemps et qui va s'arrêter à l'été. On a choisi des sites pour établir des monographies, donc des plongées sur des sites qu'on a voulu très différents les uns des autres, et en essayant de tenir compte quand même de l'environnement socio-économique. On parle d'écosystème, j'y reviendrai, mais la bibliothèque, elle n'est pas toute seule, elle est dans un territoire avec d'autres éventuellement partenaires culturels, des publics qui circulent entre plusieurs offres, et puis des publics qui eux-mêmes ont une vie, un emploi, etc. Et tous ces éléments-là, ça va évidemment structurer les pratiques en bibliothèque et peut-être les pratiques musicales. On tient compte aussi du fait qu'on a une offre musicale qui est impactée avec des services qui peuvent être nouveaux dans la bibliothèque, des animations, des formes d'animation numérique ou pas, le fait de participer plus ou moins à une diffusion live et puis parfois identifier des publics qui sont spécifiques. Ça nous a conduit à 6 sites, 6 monographies. Je le fais rapidement, mais globalement, on a une grande bibliothèque, et Cyril est là, donc il pourra prendre la parole très vivement si je dis des bêtises, mais on a une bibliothèque, les bibliothèques de la métropole de Lyon, qui est une grande métropole, et je parlerai de l'importance de la métropolisation, avec forcément des offres culturelles, un réseau qui n'est pas de même nature que si on parle d'une bibliothèque très active, mais beaucoup plus modeste sur un territoire économique qui n'a rien à voir, qui est celui du Grand Dol, par exemple, qui est plutôt une ville moyenne, avec des territoires qui sont ruraux, plus en difficulté. Des médiathèques de Gradignan, qui sont en banlieue, dans une banlieue plutôt favorisée de la métropole bordelaise. La médiathèque départementale de l'Eure, on a fait le choix aussi d'aller interroger vos collègues des bibliothèques départementales. Et puis, voilà, des bibliothèques comme Château-Giron, dans un contexte de périurbanisation, avec à chaque fois des tailles différentes et puis des formes d'initiatives différentes. On a beaucoup parlé dans le comité de pilotage. Pour dire les choses, on aurait bien voulu faire rentrer beaucoup plus de monde, mais il faut aller sur le terrain, faire des entretiens, et ça prend un peu de temps, il a fallu faire des choix. On a rencontré 31 personnes dans des entretiens individuels ou en petit collectif, avec les responsables, mais aussi vos collègues qui font vivre ces équipements de façon concrète. On est allé sur site, on a découvert les lieux, et on a interrogé effectivement les responsables de ce lieu-là, sur la façon dont ils ont évolué, dans une période qui est quand même particulière, effectivement, dont je reparlerai un petit peu, et peut-être qu'on échangera de ce point de vue-là, mais qui est une période de reprise progressive après la crise sanitaire, et parfois pendant, parce qu'on a eu des petites interruptions. Alors, ça, c'est pour le cadre. Si vous avez des questions là-dessus, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Maintenant, les principales pistes, les principaux constats, déjà, après cette première phase, qui est une phase, on va dire, qualitative. D'abord, on mesure bien, et de façon différente selon les lieux, des changements qui ont trait à des échelles qui sont soit globales, soit locales. D'abord, dans certains territoires, on sent bien les effets du déclin industriel et du fait qu'on est dans une économie de plus en plus de services, et une économie, comme vous le savez, qui est tournée de plus en plus aussi vers des services numériques. Ces éléments d'évolution vers des services d'ordre numérique, bon, il y a beaucoup de sociologues qui travaillent là-dessus ou d'économistes, ça a aussi des impacts sur les pratiques et les attentes des publics, mais aussi la représentation des professionnels tels que les vôtres, parce que vous vivez aussi cette évolution professionnelle vers le développement de quelque chose qui est moins matériel, on va dire, et qui est de l'ordre du service, et de quelque chose qui est dématérialisé. Des évolutions variables et des inégalités très fortes en termes démographiques, avec le déclin de la classe ouvrière, une classe moyenne dont on sait qu'elle rencontre un certain nombre de difficultés, et à contrario, dans certains territoires, certaines grandes métropoles, alors des classes créatives. Ça, c'est le terme de Richard Florida qui peut être discuté. Mais en tout cas, le fait qu'il y a un certain nombre d'habitants qui se caractérisent par une mobilité très forte, une mobilité et des pratiques culturelles très intenses, et qu'on attend de plus en plus sur des compétences créatives, on va dire. Voilà. Pierre-Michel Minguer travaille là-dessus aussi, avec les fragilités que ça suppose, et des points de force et des inégalités qui vont être très grandes selon les territoires. Des modes de vie qui sont évidemment en transformation aussi. Je parlerai beaucoup de la métropolisation, le fait que dans la politique publique et dans l'organisation des territoires, on a de plus en plus des effets de renforcement d'un certain nombre de villes, et donc du coup des territoires qui vont soit subir, soit tirer parti de cette réorganisation spatiale, des éléments de périurbanisation et des éléments autour des nouveaux projets de territoire qui impactent les bibliothèques dans leur rôle d'institution culturelle. Nos sites, dont on a parlé, se positionnent pas tout à fait sur les mêmes thématiques, et c'est aussi pour ça qu'on les avait choisis, avec des enjeux économiques, démographiques, de territoires qui s'encadrent un peu différemment. En tout cas, travailler dans une bibliothèque aujourd'hui, comme vous le savez, de façon plus ou moins différente, c'est répondre à des projets de territoire, c'est répondre à des injonctions politiques, de donner du sens à un territoire, et j'y reviendrai tout à l'heure. Je vous vois prendre des photos pour certains d'entre vous, je vous dis que non, mais c'est pas une critique, mais les slides vous seront donnés, on les partage sans problème. Et même d'ailleurs, si vous avez des remarques, je les corrigerai, et comme ça, vous aurez vraiment les slides que vous attendez. Bon. les slides ou les diapositives, je ne sais pas pourquoi je le dis en anglais, c'est un défaut. Alors, je vais me focaliser, parce que je ne peux pas tout faire, plutôt sur les effets de la métropolisation sur les territoires. Alors, on a, sur tout le territoire français, un renforcement des pôles régionaux. Voilà. Donc, pour tout un tas de raisons économiques et politiques, avec des formes de mise en concurrence entre les territoires qui conduisent souvent les villes ou les communautés urbaines à mobiliser les institutions culturelles comme étant un facteur d'attractivité et de rayonnement. Disposer d'une bibliothèque, ça, les gens qui travaillent, les responsables des bibliothèques départementales le savent depuis un moment, c'est important, et ça a toujours été important de pouvoir se prévaloir d'avoir une bibliothèque dans certains endroits. Mais de plus en plus, même dans les grandes villes, une bibliothèque, c'est un facteur d'attractivité parce que l'économie de service dans laquelle on entre, c'est une économie qui est définie par la créativité. Il faut attirer des publics et les grandes métropoles se font une forme de concurrence. Donc, c'est des outils, et ce n'était pas forcément perçu comme ça au départ, des outils de rayonnement et de concurrence. Il faut être présent, et il faut être présent de manière exemplaire. Ces phénomènes-là, ça s'inscrit dans d'autres formes de transition économique dont vous avez entendu parler, l'économie de plateforme, je vous renvoie aux travaux de Scholz, par exemple, ou tout un tas, une série de transformations de pratiques culturelles sur lesquelles je reviendrai des habitants, mais un éclectisme culturel renforcé, des inégalités culturelles qui peuvent être parfois très fortes, avec un éclectisme culturel renforcé pour certaines classes sociales, et puis des formes de renfermement sur des répertoires pour d'autres. Et puis, on en reparlera aussi des éléments générationnels qui commencent à s'exprimer, notamment dans le secteur de la musique, qui sont importants. Et puis, des effets de métropolisation qui montrent bien comment ces effets qui sont très globaux, qui sont nationaux ou internationaux, parce que je parle des métropoles françaises, mais la concurrence entre Lisbonne, Barcelone, Paris, Londres, on peut en parler aussi. Ces éléments sont largement globaux, mais ils s'inscrivent de manière locale et se vivent vraiment de façon locale. Donc, pour ça qu'on parle d'écosystème des bibliothèques, parce que dans la politique au minimum culturel d'un territoire, il y a de plus en plus des injonctions à faire sens avec d'autres institutions culturelles. Comment est-ce qu'on va développer une action en partenariat avec d'autres et pouvoir faire un récit de territoire, ou en tout cas pouvoir prévaloir qu'on a un projet qui est éventuellement plus intéressant que d'autres territoires. Et puis des directives qui imposent de toute façon à faire... Voilà, dans le cadre de nouvelles intercommunalités, de rendre compte d'un certain nombre d'orientations politiques, culturelles, financières qui soient claires. Toutes les villes le vivent, plus ou moins fortement, et ces éléments-là ne sont pas forcément des choses que les équipes vivent de manière contrainte. Personne ne dit, quand on dit à un bibliothécaire, à une équipe de bibliothèque, concrètement quoi faire. Mais il y a des manières de penser de plus en plus ces éléments-là quand on est directeur qui commencent à s'imposer pour obtenir des financements pour des nouveaux projets dont on parlera après. En tout cas, de façon variable selon les territoires. Et les territoires les plus petits ne sont pas forcément ceux qui échappent le plus à cette injonction à rendre compte d'un territoire, d'un projet qui soit très fort. Alors, ces effets-là, de la métropolisation, ou en tout cas... ces évolutions globales, on va les retrouver, pour revenir vraiment au cœur de notre sujet, avec un certain nombre d'effets qu'on a mesurés, discutés, et qu'on va mesurer là en termes quantitatifs. D'abord, autour de la diminution des prêts et de l'écoute sur place. Alors, de façon contrariée, pas pareil selon tous les lieux, mais et parfois avec des tendances qui peuvent s'inverser, mais globalement, on emprunte moins de CD. Le temps dans lequel les responsables des services musiques passaient énormément de temps à entretenir leurs fonds, prêtaient des piles de CD pour que les gens d'ailleurs les gravent et les rendent plus tard, tout ça, c'est largement fini. Y a encore des prêts, il y a encore des prêts de CD, on prête d'autres choses, du vinyle, etc., mais ça prend moins de temps. Et puis, avant même le Covid, mais renforcé par le Covid, l'écoute sur place a s'est largement réduite ou en tout cas transformée. Ça tient, souvent, d'après ce qu'on nous a dit, avec des publics qui sont vraiment des publics réguliers, très intenses, très experts, etc., mais il y a moins d'écoute sur place. L'autre élément central, mais qui est lié à ces effets de globalisation et d'évolution vers des économies de services, c'est évidemment les transformations de l'industrie musicale avec des nouveaux acteurs et une industrie musicale qui va augmenter sa production et la renouveler beaucoup plus rapidement avec des supports d'écoute qui vont être variables. Ces éléments-là, on va les retrouver plus fortement, a priori, dans les entretiens qu'on a eus, les observations qu'on a faites, alors ce que dit aussi la littérature sociologique, des effets qui sont plus prononcés chez les jeunes, alors effet de génération ou pas, il faudra en rediscuter, mais les jeunes qui sont plus souvent plus éclectiques et qui adoptent plus précocement que d'autres, avec sans doute des décrochages et des inégalités, ces nouveaux supports, et qui en tout cas ont des goûts musicaux qui sont plus fluides. Donc ça, a priori, sont des contextes, des effets qui ne sont pas favorables aux bibliothèques et aux médiathèques. Je dis bibliothèque souvent pour ne pas dire médiathèque. Hein, bon, mais il y a ce qu'on va appeler des cartes à jouer et des évolutions qui sont sensibles et des opportunités qui ont été visiblement investies de façon différente selon les lieux sur lesquels nous avons travaillé. Trois cartes des éléments qui n'étaient pas toujours attendus pour la musique. Le premier, c'est la patrimonialisation. La musique fait de plus en plus l'objet d'un travail de patrimoine. A priori, la musique était plutôt introduite en bibliothèque sur l'idée de faire de l'animation, faire venir des publics, faire vivre les lieux. Et c'est de plus en plus investi comme un élément plutôt classique de conservation et de patrimoine. Des éléments plus connus et plus attendus, mais renouvelés de forme de médiation et d'écoute de la musique, et puis des éléments d'expérience, de valorisation de l'expérience musicale, qui est travaillée, j'en discuterai un petit peu. Qu'est-ce que c'est qu'écouter de la musique? Quel sens ça a particulièrement, et quel sens ça a en bibliothèque? C'est des éléments qui sont définis par les actions des bibliothécaires, donc la profession que vous êtes, mais qui sont aussi définis par l'écosystème, les relations, les partenariats qui sont tissés avec d'autres institutions musicales sur les territoires. Alors, la patrimonialisation, c'est que de plus en plus, le fonds musical est perçu comme un trésor. On vous a parlé souvent de pépites, des enregistrements particuliers, des versions particulières, des supports, des partitions, des pochettes qui méritent d'être valorisées. Et qui sont des éléments concrets, matériels. Alors, il y a des inégalités fortes entre les établissements. Tous les établissements ne disposent pas de la même pépite. Évidemment, Lyon est connu pour avoir un gros catalogue de vinyles, par exemple, de CD aussi, important. C'est quelque chose qu'on peut valoriser. D'autres bibliothèques, c'est plus compliqué. Mais chaque bibliothèque est contente d'avoir sa pépite, son trésor, etc. Par moments, ça a été dilapidé. On a eu ces discours-là. C'est-à-dire qu'on a bradé du vinyle à un moment, on a bradé du CD, on les a vendus à des experts, des publics experts qui étaient très, très contents d'acheter ça à vil prix. Et on le regrette un peu aujourd'hui parce qu'on n'a plus ces magnifiques enregistrements sur support vinyle. Voilà. En tout cas, il y a un travail pour faire vivre, faire découvrir et rendre accessible avec du mobilier, des logiciels, des dispositifs d'écoute qui sont un peu expérimentaux, ce trésor. L'autre élément, c'est la patrimonialisation de la scène locale. Des territoires qui ont bien, alors différemment là aussi, hein, selon qu'on est une grande métropole ou un petit territoire, des établissements qui ont bien compris qu'ils avaient une scène musicale, qui a une histoire, et qui cherchent à faire ce que vous faites, c'est-à-dire documenter la production de la scène locale et en faire du patrimoine. Alors, pas forcément en enregistrant ça, pas toujours, parce que les moyens de le faire ne sont pas toujours là. Alors, soit on va coopérer par moment avec d'autres acteurs de la scène musicale territoriale, soit au moins on va faire un inventaire de ce qui se produit dans la scène musicale locale. On va mettre en avant les artistes locaux, on va être des artistes locaux aujourd'hui et ceux d'hier, et dire voilà ce que c'était que la scène rock du doux dans les années 70. Et ça, il n'y a évidemment que les bibliothécaires qui peuvent le faire. Et c'était important de dire nous, on est vraiment. Les professionnels de la musique ne sont pas capables de faire ça, ils ne savent pas faire ça. D'ailleurs, on ne va pas leur donner accès à nos outils parce qu'ils ne vont pas bien le faire. Mais nous, on est capable de bien documenter ça. Et il y a quand même des coopérations avec des lieux de pratique, des studios d'enregistrement, des scènes différentes pour repérer ces artistes, les suivre et essayer de documenter ça. Alors après, la question, c'est comment est-ce qu'on rend accessible cette scène musicale locale avec des consultations, des écoutes, soit sur des sites qui sont dédiés, mais c'est compliqué, soit en faisant des liens, des playlists avec des plateformes, YouTube et autres. Avec des débats sur est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que c'est ouvert ou pas. Donc il y a des expérimentations sur des formes d'esthétique aussi qui sont particulières, et c'est très intéressant. Mais voilà, on n'est pas obligé de faire écouter que des artistes locaux qui sont dans des formats standards. On peut aussi s'ouvrir à des formes d'esthétique nouvelles. Et comment est-ce qu'on rend compte de ça au-delà des plateformes qui sont très contraintes. L'autre carte, c'est des éléments qui sont plus classiques de médiation. Et pas de prescription. Alors d'abord, comment est-ce qu'on accompagne ce dont on vous a parlé sur le fonds documentaire? Comment est-ce qu'on fait de la médiation pour valoriser les collections, en sachant que maintenant, les usagers vont moins facilement vers les collections musicales, ils ne vont pas emprunter du CD spontanément, ils ne vont pas emprunter du vinyle tout spontanément, comment on fait pour les y amener, et comment on fait pour animer des expositions avec de la musique, etc. Comment on prescrit, donc comment on fait écouter des esthétiques nouvelles intéressantes et comment on est présent sur les réseaux sociaux, sur le web, avec des playlists, des blogs, etc. Et comment on les commente, voilà. Commentaires, critiques, posts sur les réseaux sociaux. Là, vous avez des initiatives qui sont parfois qui remontent à un moment, qui sont très, très bien documentées, avec des bibliothécaires qui sont très fortement investis dans ce registre du commentaire d'artistes locaux ou nationaux, et comment est-ce qu'on anime ça. Alors j'y reviendrai tout à l'heure si vous avez des questions, mais c'est quelque chose qui est plus documenté, qui est un peu plus connu, mais là j'y reviendrai, la frontière c'est entre la prescription et la médiation, avec des attitudes qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Prescrire de la bonne musique ou accompagner des évolutions de pratiques qu'on perçoit et qu'on a envie de valoriser. Troisième élément, celui de la valorisation de l'expérience musicale. La musique, ce n'est pas un média comme les autres, c'est quelque chose qui est vivant, qui a des qualités qui sont particulières, et donc on va programmer différents types de concerts, des concerts rencontres avec les artistes, des concerts qui sont plutôt festifs et qui vont animer le quartier, la bibliothèque, etc. Et puis des showcases où on va là plutôt valoriser de façon presque un peu promotionnelle des artistes, en tout cas leur permettre de vivre et de se faire connaître, pourquoi pas. Ces formes de concerts ne sont pas investies de la même façon, ça dépend j'y reviendrai tout à l'heure aussi, des compétences des équipes et de la façon dont elles ont la possibilité et peut-être l'envie de s'investir aussi. Il y a un travail aussi sur l'expérience de l'écoute. Développer l'écoute avant de développer la musique uniquement, c'est qu'est-ce que c'est qu'écouter, donc des balades sonores, des siestes musicales, vraiment faire vivre une expérience particulière qui soit collective ou qui soit individuelle sur place. Alors ces éléments-là sont travaillés et ils interrogent beaucoup qu'est-ce la spécificité de l'écoute de la musique en bibliothèque. Est-ce qu'on écoute de la musique en bibliothèque comme on l'écoute dans des espaces commerciaux du type Fnac ou autre? Est-ce qu'on l'écoute pareil qu'à domicile? Qu'est-ce que c'est qu'on propose en fait? Quand on fait un concert, quand on le propose en bibliothèque, est-ce que c'est la même chose qu'un concert d'une institution qui a toute légitimité pour le faire? Par exemple, une scène de musique actuelle, une salle de concert privée, un bar. Qu'est-ce que c'est que de faire de l'écoute en bibliothèque? Il y a des interrogations, il n'y a pas beaucoup de réponses. Pareil aussi sur les dispositifs qui sont expérimentés d'écoute en salle, avec des bornes qui peuvent être utilisées ou pas, des bornes qui sont parfois très innovantes et qui ne rencontrent pas de public ou qui rencontrent des difficultés avec la SACEM parce que ce n'est pas prévu. Donc il y a énormément de questions sur ce travail de l'écoute et évidemment percuté très fortement par le Covid au moment où les choses s'arrêtent. Le retour n'est pas garanti à la normale et on voit bien quand ça s'arrête que c'est compliqué de faire revenir parce que on n'a pas vraiment de réponse très très claire sur quelle qualité d'expérience spécifique on propose en bibliothèque, sauf quand on le fait de manière un peu événementielle, comme les siestes, des éléments vraiment de balade sonore qui sont des programmations un peu différentes. Voilà. J'y reviendrai tout à l'heure aussi. Évidemment, tout un travail aussi sur la pratique musicale, inciter à la pratique, favoriser la découverte d'instruments, organiser des rencontres avec des musiciens qui parlent de leur pratique musicale, prêter des instruments, du matériel, etc., pour inciter à ne pas faire qu'écouter, mais être aussi en pratique. Là aussi, ça suppose qu'on ait des collaborations avec des conservatoires, des écoles de musique, ça va dépendre des territoires, ça va dépendre aussi de la façon dont les équipes investissent ces éléments-là. Voilà un peu ces trois cartes-là qui ne sont pas positionnées de la même façon sur les missions des professionnels que vous êtes, avec des éléments de conservation et de documentation qui sont plutôt au fond, hein, qui sont moins visibles par les publics, et puis des éléments plutôt d'animation, de communication, de médiation, qui sont plutôt sur l'avant-scène et qui sont peut-être plus visibles. Professionnellement, on ne va pas s'investir de la même façon selon sa trajectoire professionnelle, selon son goût pour la conservation ou la médiation. Vous connaissez ça comme moi, avec des effets de légitimité qui ne sont pas tout à fait les mêmes non plus quand on est plutôt du côté de la conservation et des œuvres et des éléments qui sont du côté de la médiation et des publics. Ce n'est pas les mêmes carrières et on sent bien que ce n'est pas tout à fait la même reconnaissance au sein des institutions non plus. Donc, y a parfois des tensions, y compris au sein des équipes. Alors, ces tensions, on va les retrouver aussi selon les établissements. Est-ce qu'on est une médiathèque multispécialiste ? Est-ce qu'on a la possibilité d'être spécialiste partout et d'accumuler ces spécialités avec une compétence très forte, ce qui est souvent le cas quand on est dans un réseau ou dans un grand établissement, ou est-ce qu'on est généraliste ? On fait un peu de tout, un peu. Les choses ne sont pas évidentes, et elles ne sont pas évidentes. Il n'y a pas de caractère systématique selon les lieux aussi. On peut être dans une bibliothèque et faire un truc de spécialiste dans une section et l'assumer pleinement. Est-ce qu'on s'investit localement ? Vraiment avec des actions de territoire ou quelque chose qui est pensé en termes global. Alors, je peux vous donner l'exemple de Gradignan, par exemple, qui est une petite bibliothèque, mais qui va être très investie sur un débat national, voire international, sur la place de la musique en bibliothèque, la place des esthétiques libres, et donc, sans qu'on soit d'ailleurs très dérangé là-dessus, mais c'est une tension. Est-ce que c'est ce qui est attendu de moi, en fait, que je sois sur ce plan global ? Alors que je suis quand même dans une bibliothèque où je dois rendre des services à mon public particulier. Et donc, le temps de travail est partagé entre ces deux aspects-là. Évidemment, des éléments qui sont marqués par la routine, l'ordre et l'événement, le désordre. Alors, jusqu'il y a quelques temps, tout allait bien parce qu'on était envahi de routine et du travail sur les collections, les CD, les rangées. On n'avait pas le choix. De toute façon, on était majoritairement du côté du service au public, on va dire, avec des choses contraignantes mais organisées dans la routine. Et de plus en plus, on s'investit ou on peut s'investir dans des choses qui sont de l'ordre du désordre, en fait, en tout cas de la rupture qui est plutôt événementielle. Comment on gère ce temps de travail-là avec une formation qui est pas toujours, qui va pas toujours dans ce sens-là ? Comment les équipes se répartissent ce temps en salle ou à l'organisation d'éléments qui sont plus événementiels ? Donc ça pose des questions d'organisation du travail. Est-ce qu'on est, ça c'est assez classique hein, tout ce que je vous raconte là, mais qu'on retrouve vraiment fortement là, à l'écoute de ce que veulent les publics, ou est-ce qu'on propose des choses en rupture ? On a entendu ça souvent, on n'est quand même pas là pour aller dans le sens des publics, il faut quand même aussi proposer une diversité culturelle, être un peu exigeant. Parce que c'est facile, si on propose que du rap, bah oui, ça va partir, mais on n'est pas là pour ça non plus. Bon. Et puis d'ailleurs, des fois, c'est tellement facile d'aller dans le sens du public que c'est pas très intéressant. Donc on préfère aller du côté quand même de la prescription aussi. Est-ce qu'on fait de l'accompagnement personnel ou de l'action collective ? Là aussi, c'est des éléments et des tensions que vous retrouvez. Ces attentes-là, ça peut se cristalliser dans un nouveau projet que vous connaissez sous le terme de tiers-lieu, hein, à nouveau, la bibliothèque tiers-lieu. Est-ce que la bibliothèque, ça devient un tiers-lieu culturel polyvalent ? Est-ce qu'on fait des animations un peu comme on peut le faire ailleurs. Alors ça marche bien quand on est une bibliothèque qui est seule sur son territoire, et c'est une attente forte qui peut être faite de proposer énormément d'activités, mais est-ce que c'est le rôle d'une bibliothèque ? Et parfois, il y a des éléments de concurrence avec d'autres équipements qui peuvent se poser. Qu'est-ce que c'est que l'identité de la bibliothèque ? Et du coup, je reviens sur cette question de qu'est-ce que c'est que l'écoute en bibliothèque ? Qu'est-ce qu'elle a de spécifique ? Alors, il y a des ressources et des contraintes. On peut construire ces ressources avec des partenariats qui sont plus ou moins investis autour des scènes musicales, autour des conservatoires, autour des écoles de musique, et des ressources qui sont liées aussi aux compétences internes. On a beaucoup de responsables de sections musique qui sont eux-mêmes musiciens ou qui sont eux-mêmes qui ont été ou qui organisent toujours des festivals. Donc il y a des vraies ressources internes qui peuvent être valorisés directement, mais qui ne placent pas ces professionnels dans la même, situation que quelqu'un qui en a le statut. Donc, c'est des choses qui sont à la fois des ressources et des contraintes. Ce n'est pas forcément évident à faire vivre. Et par moments, on se demande si c'est vraiment son métier qu'on est en train de faire ou quelque chose qu'on a fait avant ou quelque chose qu'on fait ailleurs. Donc, c'est à la fois des débats internes et puis des débats parfois qui peuvent avoir lieu au sein des équipes. Ça pose du coup fortement, ça repose la question de la formation initiale et continue, ça tombe bien, on est à l'ENSIB. Hein. Du coup, c'est quoi la formation qu'on a reçue ? Est-ce qu'on a reçu une formation spécifique pour faire de la médiation et de la prescription ou de l'accompagnement à la musique ? Et comment est-ce qu'on apprend ça ? Et puis, ça pose la question des dispositifs entendus au sens large qui permettent la médiation et la production d'expériences sonores. C'est quoi l'écosystème de la bibliothèque ? C'est quoi les dispositifs qu'on crée en s'appuyant sur la circulation de personnes, ressources, dans son environnement, ou d'objets, ressources, pour organiser cette activité de la bibliothèque. Alors, on peut vouloir organiser des concerts, pas avoir les moyens de le faire, pas avoir le droit de le faire, pas avoir les ressources économiques de le faire. Toutes ces questions-là sont finalement assez compliquées. Certains organisent sans en avoir le droit. Certains organisent parce qu'ils savent, ils sont formés au droit de diffusion musicale et le font vraiment dans les clous, mais du coup de façon un peu plus contrainte. Donc les dispositifs vraiment pour faire ça, y compris pour faire exister la musique en salle, et finalement, sont finalement assez compliqués dans un cadre réglementaire, par exemple en termes numériques, qui n'est toujours pas clair. Voilà. Prêter de la musique en bibliothèque au format numérique, c'est pas aussi avancé que... Et c'est encore contraint dans le cadre du livre numérique, par exemple. Ces éléments n'existent pas ou mal, ils ne sont pas encore cadrés. Donc ces questions sont assez complexes. Voilà. Concrètement, on n'a pas de dispositif existant de manière très claire pour donner accès à la musique numérique, par exemple, en bibliothèque. Les éléments qui nous paraissent intéressants là, qu'on va du coup explorer, c'est ces éléments des caractéristiques propres de la musique. La musique, c'est une intensité esthétique et c'est une forme de rencontre vivante. Ça va convoquer une expérience qui n'est pas tout à fait la même que la lecture ou que le cinéma, qui présente un certain nombre d'avantages parce que ça va créer des sociabilités ou ça va activer des sociabilités qui sont très fortes. Ça favorise des constructions identitaires et des identifications multiples. C'est beaucoup travaillé par les sociologues de la musique et les sociologues de la culture sur le fait que, notamment pour les jeunes, explorer des registres différents, ça a des incitations, et c'est des invitations à repenser qui on est sur des scènes sociales très différentes. C'est plus fort, sans doute, que des formes plus contraintes comme la lecture et en tout cas beaucoup plus répandues que le cinéma. Et puis il y a un lien qui se crée par l'expérience musicale propre, un lien générationnel, culturel, communautaire qui peut se créer. Donc c'est pas tout à fait la même chose que de parler de musique ou de parler de lecture ou de parler de cinéma, et c'est des éléments qui sont travaillés mais de manière encore un peu morcelée, qui peuvent l'être très fortement, qui peuvent donner une place particulière à la bibliothèque. Là encore une fois, on parle de lecture publique, on peut parler d'écoute musicale publique. C'est quoi la mission d'une bibliothèque ? Qu'est-ce qu'on cherche à créer quand on fait écouter de la musique en bibliothèque ? Alors, il y a des réflexions, mais dans ce contexte-là, ces réflexions sont plus fortes. Quand il s'agissait de prêter du CD, bon, les gens les écoutaient chez eux. Quand on veut faire écouter de la musique sur place, il faut avoir un discours et une ligne des enjeux, définir des enjeux qui sont très forts. On en reparlera dans les questions, mais on en a sur ces ouvertures. Maintenant, on a fait ça sur 6 sites. L'objet, c'est de poser ça et d'essayer de voir comment ça se répartit sur le territoire de façon quantitative. Alors, on cherche évidemment à généraliser ces constats et à comparer des situations en France métropolitaine, dans les bibliothèques municipales et départementales. On a donc proposé 2 questionnaires, un pour les professionnels et un autre pour les usagers. Pour les professionnels, on s'appuie sur un questionnaire que vous connaissez bien, c'est l'enquête NeoScribe, qui est pilotée par l'Observatoire de la lecture publique, qui va nous donner accès à un certain nombre de données qu'on n'a pas à redemander. Quel est l'état du fonds, c'est quoi les emprunts, les sorties, le nombre de concerts, toutes ces questions qui sont extrêmement prenantes, et je pense que ça vous prend beaucoup de temps pour y répondre. On s'est dit que c'était raisonnable de ne pas vous les redemander, donc on va les récupérer dans la base, avec un identifiant qui est un identifiant unique. Et cet identifiant, on va le retrouver dans le questionnaire qu'on propose aux professionnels. Je précise que cet identifiant, je ne sais pas qui répond. J'ai un identifiant, et ça me met en face des noms, mais je n'ai pas accès au mail. Et donc, c'est virtuellement anonyme. Voilà. Surtout, ce qu'on ne fera pas, c'est identifier les réponses de chaque lieu. Ce qui nous intéresse, c'est de faire, évidemment, en fonction de ce que sont les lieux, de ce qu'ils font, du nombre d'habitants, de la commune dans laquelle ils sont intégrés, des caractéristiques des communes dont on a parlé, etc., comment ces lieux-là font des choses différentes et vivent des choses un peu différentes. Alors, ce questionnaire, on l'a diffusé, on a constitué une base d'à peu près 9000 sites, un petit peu moins, qui sont réputés disposer de collections musicales en propre ou par le biais des bibliothèques départementales. On a évité de solliciter les bibliothèques dont on sait qu'elles n'ont pas de collection musicale et, a priori, d'après ce qu'on nous a dit, pas d'action musicale. En gros, quand on n'a pas du tout de collection, on a rarement des actions. Donc, on a élagué. Visiblement, on a quand même des bibliothèques qui sont réputées avoir des collections qui n'en ont pas ou n'en ont plus ou, en tout cas, ne font rien. Bon, alors, ils ont quand même la possibilité de répondre. Le questionnaire a commencé à être diffusé à partir du 5 juin et il le sera jusqu'au 2 juillet. Il est composé du coup d'éléments d'identification, je vous l'ai dit, sur les fonds, les actions, les budgets, les caractéristiques de l'établissement. Et vraiment, nous, ce qui nous a intéressé, c'est d'abord la perception des évolutions en cours. Comment est-ce que les professionnels imaginent que leur territoire est impacté, évolue en termes économiques, sociaux ou autres, et comment ils perçoivent les évolutions dans le secteur musical. Comment ces évolutions-là ont eu des impacts ou non sur leur activité, et est-ce que ça crée des tensions dans leur propre organisation? Quel sens ils donnent aux actions qu'ils mènent et à leurs projets? Et puis, voilà, qui répond, en gros? Qui répond, et quelques éléments vraiment très simples d'identification des carrières. Est-ce qu'on a fait des choses avant? Est-ce qu'on est musicien ou pas? Voilà, c'est des éléments qui nous intéressent et qu'on pourra traiter. Pour le questionnaire usager, on a une stratégie boule de neige. On demande aux professionnels qui ont répondu à l'enquête de diffuser un questionnaire ad hoc pour leurs usagers. On pose aux usagers la question de savoir assez rapidement ce qu'ils font en bibliothèque, quels sont les services qu'ils mobilisent, est-ce qu'ils empruntent du livre ou pas, est-ce qu'ils consultent de la presse ou pas, et donc, quelle est la place de leur pratique musicale en bibliothèque par rapport à ces pratiques en bibliothèque en général. Et évidemment, on leur demande ce qu'ils font à domicile. Alors, à domicile, bon, c'est un terme comme ça, mais quelle musique ils écoutent, quels sont les genres de musique qu'ils écoutent, quels sont les supports dont ils disposent, est-ce qu'ils ont arrêté d'écouter du CD, par exemple, est-ce qu'ils ont fait d'autres choses, est-ce qu'ils sont entièrement numériques, toutes ces questions-là nous intéressent, est-ce qu'ils sortent écouter de la musique, si oui, où, donc il y a beaucoup de questions sur leur pratique musicale, et après, leur pratique musicale en bibliothèque. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils écoutent, est-ce que c'est la même chose ou pas, est-ce qu'il y a une logique d'usage qui est la même ou une rupture, c'est ça qui va nous intéresser. Est-ce qu'ils sont musiciens, évidemment, depuis combien de temps? Et puis un talon sociologique assez classique, qui sont, quelle est leur origine sociale, etc. Ce questionnaire, il n'est pas destiné qu'à ceux qui utilisent la musique en bibliothèque. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir qualifier ceux qui écoutent de la musique en bibliothèque par rapport aux autres qui font d'autres choses, mais qui n'écoutent pas de musique en bibliothèque et qui peuvent avoir des usages parfois assez intenses musicaux à l'extérieur. Voilà. Cette diffusion, elle a commencé le 7 juin. Les premiers questionnaires usagers ont été recueillis le 7 juin et on se donne jusqu'au 15 juillet. On a envoyé aux professionnels des ressources pour prendre connaissance de ce questionnaire et pouvoir le diffuser le plus facilement possible avec des exemples de mails, etc. Pour l'instant, alors au 17, parce que j'ai envoyé ma présentation un petit peu avant, aujourd'hui nous en sommes à 685 questionnaires professionnels, ce qui représente un très très bon taux de retour, en fait. Bravo à vous. Parce que généralement, dans les enquêtes en ligne, on a 3% de taux de retour quand on a de la chance. On est à un peu plus de 6%. C'est pas mal. On peut espérer avoir 10% quand même. Donc on va faire une troisième relance. Elle va partir aujourd'hui. J'ai fait le pointage hier. Donc ceux qui n'ont pas répondu vont recevoir encore un mail de relance aujourd'hui. Si vous n'avez pas reçu ce questionnaire, parce que peut-être que le questionnaire a été adressé à une autre personne qui est en charge de l'évaluation générale de la bibliothèque, ou c'est peut-être juste votre directeur et pas vous, eh ben, n'hésitez pas à me faire un mail pour que je vous adresse le lien de votre établissement. Ça, je peux le faire, du coup. Mais du coup, ça ne sera pas anonyme, mais j'oublierai. Bon. Et ensuite, l'enquête auprès des usagers, nous en sommes à 225. Alors 225, c'est pas mal, parce que c'est compliqué, mais c'est pas génial. Parce que si les 685 établissements qui ont répondu le diffusent à ne serait-ce que 10 usagers, on devrait avoir un échantillon de près de 7000. Donc c'est notre objectif quand même. Il faut être sérieux. 10 personnes dans chaque établissement, en sachant qu'on a Lyon qui le fait et qui a déjà bien bien diffusé de leur côté. Je pense qu'on doit être à, je sais pas, une bonne soixantaine ou 70 usagers de Lyon. Je pense que c'est faisable. Voilà. Donc on va vous inciter à le faire très, très facilement, en sachant que souvent les professionnels ont un peu peur que le questionnaire soit long, parce que c'est vrai qu'on vous donne un accès au facsimilé du questionnaire, mais le questionnaire, il y a des filtres. Donc en fonction de ces pratiques, on peut sauter tout un tas de questions et personne, sauf ceux qui sont vraiment très très investis dans les pratiques musicales, n'ont à répondre à tout le questionnaire dans son intégralité. Si on est par contre vraiment au taquet en termes musical, on va devoir répondre à tout, mais ça tombe bien parce qu'on aime beaucoup la musique. Donc généralement, ce n'est pas un souci de répondre à tout. Voilà. Je finirai en vous disant deux choses. On a dans le questionnaire usager et le questionnaire professionnel, on vous laisse un champ commentaire. Donc n'hésitez pas à le remplir, d'abord parce qu'on va le lire, et on va faire la collation de tous vos commentaires, et donc ça sera intéressant, et vous aurez la possibilité de faire comme un petit entretien quand même, et de nous dire vraiment ce qui vous paraît important, et éventuellement ce qui manque dans ce questionnaire. Et puis on en fera un traitement lexical aussi, et donc on regardera au niveau des répondants quels sont les thèmes, les thématiques qui sortent le plus fortement. C'est valable aussi pour vos usagers qui ont la possibilité de le faire. Généralement, ça marche bien, et c'est très intéressant pour nous d'avoir ces petits retours. Voilà ce que je pouvais dire rapidement. Donc, je sais pas si je crois que je suis pas mal en termes de timing. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je vous ai mis le lien vers l'étude. Comme ça, Christophe et Pierre seront témoins des questions que vous aurez à nous poser. Et ils pourront répondre s'ils veulent aussi. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je peux vous répondre.
Merci beaucoup, Olivier. Merci pour le timing, déjà, vraiment, et pour cette présentation très claire. Donc, vous comprenez que c'est très intéressé, cette présentation, et qu'on a besoin de vous. Alors, certains ont déjà contribué. J'en profite d'ailleurs pour remercier, pour commencer, le Conseil de coopération de la BPI, qui nous a soufflé ce sujet de recherche, qui décidément est très, très intéressant, mais aussi les associations professionnelles des bibliothécaires musicaux, la IBM et la CIM, bien sûr, sur laquelle nous nous appuyons considérablement pour D'ailleurs, je pense qu'une partie d'entre vous est présent grâce à ces incitations.
Je n'ai pas cité les noms, oui, effectivement, des associations professionnelles, parce que j'ai du mal à les dire sans me tromper.
On va rester aux acronymes, hein. Les gens iront voir, ils sont curieux, c'est des bibliothécaires. Et je remercie aussi évidemment l'Observatoire de la lecture publique, hein, puisqu'il y a eu une grande complicité pour faire en sorte que... Mais ça, Olivier l'a très bien expliqué. Voilà, vous avez peut-être des questions ou des remarques, des besoins de précision. C'est le moment.
Bonjour, Marianne Kugler de la médiathèque, des médiathèques d'Antony. D'abord, une réflexion, c'est que votre questionnaire, vous n'avez peut-être pas eu le choix, vous le faites à une période où il y a peu de fréquentation en bibliothèque. Et ça, c'est un gros problème parce que le public est revenu au mois de janvier, février, mars. Et là, on voit qu'il y a très peu de fréquentation, donc ça ne facilite pas les choses. Et malheureusement, ça ne sera peut-être pas aussi représentatif que ça aurait pu être à une autre période. Et puis, je voulais aussi parler d'un de mes collègues, Tristan Vinatier, en section musique et cinéma, qui fait des interventions vraiment remarquables. Il a toutes les compétences. C'est quelqu'un qui est drôle, qui a plein d'anecdotes. Tous les gens qui viennent à ces animations sont ravis, sauf qu'ils sont extrêmement peu nombreux. Et on a beau essayer de faire de la publicité, et ben, les gens ne viennent pas. Peut-être que le terme de conférence leur fait peur, je ne sais pas. Évidemment, dès qu'il y a un concert, là, vous avez du monde. Mais quand on présente même des transats soniques avec des modes d'écoute différents, sympathiques, décontractés, eh bien, il y a très, très peu de monde qui vient. Donc, si vous avez des recettes, ben, nous sommes preneuses et preneurs.
Je n'ai pas de recettes, mais alors, je vais répondre à votre remarque sur effectivement la bonne période. Alors, oui, il y a rarement de bonne période. Alors... ce qu'on va faire quand même, c'est essayer d'avoir un échantillon qui n'est pas forcément représentatif au sens propre, mais qui est le plus divers possible. Ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir des publics qui sont les plus hétérogènes possibles. Et c'est ça un peu l'enjeu aussi, pas d'avoir que des publics de grandes métropoles, etc. Donc ça c'est un peu notre premier enjeu avec le nombre. Voilà. Donc on ne sera pas trop mal, hein. Forcément on pourra travailler, mais l'enjeu c'est quand même d'avoir une diversité qui va nous permettre de faire des profils assez différents. Pour répondre à votre autre question, c'est quelque chose qui est revenu assez souvent et que je trouve assez intéressant sur le fait que souvent ces questions-là de l'influence, elles se posent pour une bibliothèque et souvent pour des actions qui sont assez peu coordonnées avec d'autres lieux. Moi je trouve ça assez frappant le fait de se dire on a des publics qui sont présents dans les bars, qui sont présents dans des salles de concert, mais finalement, ces salles de concert ne relaient pas vos actions, parce que simplement, on ne pense pas à le faire, ou on ne travaille pas ensemble, etc. Souvent, ça, c'est assez marquant, quand même. C'est-à-dire, c'est quand même, ça reste une affaire de bibliothécaire, et souvent, vous avez des actions coordonnées au niveau du réseau, mais ça suppose que votre public, ça soit un public des bibliothèques, et des bibliothèques sur place. Pas forcément le public que vous pourriez attendre. Alors, ce que vous dites, quand on fait un concert là, ça vient, bah, c'est sans doute parce que vous avez des réseaux, ne serait-ce que le groupe qui se produit, qui bah, va activer d'autres réseaux qui font venir votre public. Et là, c'est vraiment ce qu'on appelle le dispositif. Hein. Quels sont vos alliés qui relaient vos actions? Et souvent, vous avez des actions, moi, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, je n'ai pas à juger, mais qui sont pensées dans un cadre de bibliothèque. Donc, vous avez... des publics que vous captez de bibliothèques. On ne peut pas vous en faire le reproche, et c'est ce qui vous est demandé. Mais si vous voulez du nombre et sortir de là, il faut le penser, et c'est ce que font certains établissements, vraiment en partenariat. Voilà. Après, ça vous pose d'autres questions.
Effectivement, c'est le cas, et nous avons plein de partenariats, et à chaque fois que c'est avec un partenariat, il y a plus de monde, c'est une évidence.
Non, mais on aime bien en sociologie dire des choses assez évidentes, mais de façon un peu plus complexe.
D'autres, oui.
Bonjour, je suis Isabelle Bourriche, je suis la directrice de la médiathèque André Malraux à Savigny-sur-Orge. Une médiathèque qui fait partie du réseau du Grand Orly Seine-Bièvre. D'abord, je voulais vous remercier pour la qualité de votre présentation et aussi le fait d'aborder notre travail dans la diversité, c'est-à-dire que le travail qu'on fournit, qu'on fait, on ne parle pas souvent de l'identité d'un établissement. Et pour moi, c'est primordial parce que c'est ce qui fait que les habitants nous identifient, s'identifient au lieu, même s'ils ne viennent pas. C'est bizarre, mais ça contribue à un sentiment d'appartenance ou une certaine fierté quand on a des équipements culturels qui font un bon travail. Moi, j'ai une question. Notre réseau est en réflexion sur le fait de prendre, de souscrire à MusicMe. Et évidemment, alors, notre tutelle, enfin, notre direction, notre hiérarchie, n'est pas forcément, enfin, est un peu dubitative, puisque par le passé, il y a eu déjà souvent, on s'est posé cette question. Ça n'a pas forcément été très satisfaisant. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de gens du métier, donc j'aimerais bien repartir ce soir en ayant avancé sur ce sujet, puisque vous avez dit qu'il n'y avait pas vraiment de. Que ce n'était pas encore très clair au niveau du droit, par exemple. Donc, avant de se lancer, j'aimerais bien avoir des réponses. Et M. Tibi nous a aussi parlé que la BPI était aussi éventuellement un futur client où il y avait quelque chose qui était en cours avec la BPI. Donc, est-ce qu'il... Déjà client.
Moi, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire, parce que je ne suis pas bibliothécaire. Par contre, les éléments de réflexion et peut-être de controverse qui peuvent se poser là-dessus, c'est des choses assez classiques. Hein. C'est quel est le catalogue auquel on a accès ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas ? Est-ce qu'on peut le comparer avec ce que vont faire nos publics dans d'autres espaces qui sont des espaces commerciaux ? Est-ce qu'on va retrouver la même qualité de recommandations, d'usage, etc. ? Parce que forcément, si vous avez une... Vous intervenez dans l'espace numérique, vous êtes mis en concurrence avec d'autres formes d'applications qui peuvent être parfois plus efficaces. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait et c'est quoi la spécificité de cette offre-là, comment on la présente peut-être aussi, et quelles sont les valeurs qu'on va défendre derrière ? Je n'ai pas de réponse, mais c'est les questions qui sont posées. Combien ça coûte aussi, accessoirement ? Est-ce que ça vaut le coup ? Ça, moi, je n'ai pas d'avis. Mais c'est en tout cas, les discussions qu'on a entendues sont celles-là. Certains qui ont fait le choix en disant qu'il faut être présent en ligne. De toute façon, il faut montrer qu'on investit ça avec des esthétiques qui sont un peu différentes. Ce n'est quand même pas Spotify, etc. Ce n'est pas le même algorithme, mais c'est mieux. D'autres qui disent, bah, de toute façon, c'est limité et on ne doit pas y aller. Et puis, ça coûte trop cher pour ce que c'est. Puis, c'est privé ou paraprivé. Donc, voilà. On n'a pas de droit de prêt musical et c'est pas normal de toute façon, donc c'est pas satisfaisant, mais ça réactive des débats qu'on peut connaître sur le prêt de livres numériques. En tout cas, nous on voit que ces questions là sont controversées et débattues, donc je comprends que vous ayez du mal à choisir. Je sais pas ce que je ferai à votre place, je peux pas vous dire, mais en tout cas ce qui me paraît central, c'est quand je dis que c'est pas, il y a pas de cadre posé, c'est que on voit bien que dans les applications du type Spotify ou autre, il y a des algorithmes dont on ne sait pas comment ils fonctionnent, mais on voit bien qu'ils fonctionnent. Ils ont une finalité particulière qui est de vous faire rester le plus longtemps, à la fois de vous proposer une petite diversité, mais quand même de s'appuyer sur vos goûts individuels. Dans le cadre de la lecture publique, pour moi, ça ne peut pas être ça. Clairement, proposer une lecture, ça doit forcément être une lecture vis-à-vis d'autres. Si j'avais une réponse, mais c'est pas fait, hein, on est bien d'accord, c'est pas comme ça que c'est pensé, mais ce qui serait intéressant dans un espace public, c'est de vous dire, vous écoutez ça, voilà ce qu'écoutent les autres. Aucune application ne le fait. Quelqu'un du même âge que vous, d'un autre milieu social, écoute ça. Ou quelqu'un, vous, dans 10 ans, vous écoutez ça. C'est ça qui est intéressant dans un cadre de lecture publique, c'est ça que vous organisez au fond, hein, au quotidien et dans vos collections, essayer de faire sortir vos publics de leur... travers individuel et de leur envoyer à du collectif. Bon, bah, c'est de la lecture publique, de l'écoute publique, etc. Je ne suis pas sûr que ces outils le fassent vraiment. Alors, il y a des tests, il y a des expérimentations un peu dans ce sens-là, mais pour l'instant, ça n'existe pas en tant que tel, quoi. Et je ne suis pas sûr que ça soit possible pour des éléments tout simplement réglementaires. Je ne suis pas sûr que vous avez le droit de capter des données, de les faire, je ne sais pas, mais...
Bonjour, moi c'est Saïd, je suis chargé de collection musique à la BPI, donc je peux apporter quelques éléments de réponse qui ne seront peut-être pas transposables à votre cas, parce que donc à la BPI, on a fait le choix d'avoir une plateforme de diffusion en streaming qui s'appelle Tympan. Et on est client MusicMe, donc c'est un de nos fournisseurs pour les fichiers numériques natifs. Mais on continue aussi d'acheter des CD. Voilà. Donc le problème pour les fichiers musicaux en numérique natif, c'est qu'il y a beaucoup d'offres, mais il y a très peu de sociétés qui proposent des offres adaptées aux bibliothèques. Et je crois savoir que MusicMe doit être à peu près la seule. Je ne connais pas l'offre dans son exhaustivité, mais je crois que MusicMe est une des seules, voire la seule, à proposer voilà, des contrats qui sont adaptés aux institutions comme les bibliothèques. Après, donc, monsieur, vous avez parlé du catalogue. Effectivement, donc, nous, à la BPI, on a fait le choix donc, d'acheter des CD et aussi du natif numérique, parce qu'effectivement, dans le catalogue MusicMe, on ne trouve pas tout. Donc, voilà. Donc, pour les musiques actuelles, les nouveautés, on trouve à peu près tout. Mais par exemple, moi, je suis chargé de collection en musique classique. Et je sais que si mon seul fournisseur était MusicMe, bah, ma collection serait plutôt appauvrie parce qu'on ne trouve pas tout. Donc voilà, c'est les quelques éléments de réponse que je peux vous apporter là-dessus.
Merci Saïd, je crois qu'on va devoir, sauf erreur de ma part, merci nous sommes dans les temps. Donc merci beaucoup Olivier, et à suivre donc pour la fin de l'étude et pour les questionnaires. Merci beaucoup.